Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Vous le savez, l'une des hantises de l'animateur de radio, c'est que son invité soit en retard, mettant en danger sa tension artérielle et son taux de cortisol dans le sang. Plus largement, dans une société dominée par l'urgence, nous ne supportons plus le retard. Nous montrons vite notre impatience, notre courroux, plus ou moins feutré face au retardataire. Gérer son emploi du temps, éliminer les temps morts, combattre tout retard potentiel, voici nos obsessions contemporaines dans tous les pans de notre vie, au travail, à l'école, en famille, dans notre couple, dans nos loisirs. Une obsession qui nous stresse corps et âme. Mais pourquoi craignons-nous à ce point le retard? Comment en faire un usage fécond en respectant les autres et sans en abuser? Nous verrons pourquoi le retard permet de prendre conscience de l'épaisseur du temps et pourquoi, paradoxe apparent, le retard peut-il devenir un moteur à l'action? Éléments de réponse avec la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet et avec la psychiatre Aurélia Schneider. Mes complices cet après-midi, Éric Libiot et Marie-Laure Sunshein. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Hélène Leuillet.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychanalyste, philosophe, maître de conférences à la Sorbonne et vous publiez chez Albin Michel un formidable essai d'une grande finesse d'analyse, Éloge du retard. Est-ce que vous avez eu peur d'être en retard?
Ah, j'ai tout le temps peur d'être en retard, bien sûr. Et puis alors, vous voyez, aujourd'hui, pour moi qui est quand même un petit peu d'âge, on ne peut plus être en retard. On n'a plus, pendant des années, on avait cette excuse. Oh, ma montre retarde. Oh, ma montre n'est pas à l'heure. Et maintenant, avec les portables, avec l'heure, on est tous à la même heure. Avant, on n'avait pas la même heure. Et là, depuis une époque quand même assez récente, on a tous la même heure. Donc, on est sans cesse stressé, angoissé, et c'est devenu un vrai problème de société. Je crois que je suis pas la seule.
Bonjour, docteur Aurélia Schneider.
Bonjour, Ali.
Vous êtes l'une des expertes éclairées de cette émission, et vous avez publié un ouvrage remarqué il y a quelques mois, consacré à la charge mentale des hommes et des femmes. Vous avez eu peur d'être en retard?
Oui, j'ai eu peur d'être en retard, je l'avoue. Mais en fait, j'étais très, très en avance.
Hélène Leuillet, je n'ai pas le temps. Eh bien, c'est une phrase que nous sommes nombreux à prononcer tout au long de la journée.
Et oui, c'est une chose, un grand paradoxe de nos sociétés, qu'on ne cesse de nous inventer des technologies, des choses pour nous faire gagner du temps, vous savez. Et puis on vous dit, ça vous prendra pas tellement de temps, une enquête de satisfaction. Et puis alors, vous commandez vos courses par Internet, ça ira plus vite. Et puis, en vérité, les emplois du temps se chargent toujours davantage. Si bien qu'à un moment, il faut bien dire la vérité. C'est-à-dire que ce « je n'ai pas le temps », bien sûr qu'il peut être un prétexte, parfois, mais un prétexte salutaire. Hein, moi, je dirais, c'est une réserve, un jardin secret. Mais bien souvent, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où cette demande infinie de faire toujours plus de choses, de rentabiliser le moindre instant, la moindre minute. Tiens, je suis en avance de 10 minutes à l'émission, parce que l'émission, on peut pas être en retard. Qu'est-ce que je fais? Vite, je me mets en avance sur mes mails, parce que sinon, je vais être trop en retard ce soir. Vous voyez, on rentabilise toujours le temps. Et c'est ainsi qu'il y a un moment, ben non, on n'en a plus.
Aurélia Schneider.
Oui, on a même tendance aussi à faire du temps masqué. Mmh. C'est-à-dire qu'on lance une activité, pendant ce temps-là, on fait d'autres choses. Mais en fait, c'est bête, mais tout le monde le fait. Quand on fait de la cuisine, il y a marqué « préchauffez votre four
». Ouais.
Mais c'est marqué sur toutes les recettes. C'est vous ça. Préchauffez votre four. Parce que si vous ne l'avez pas préchauffé au moment d'enfourner vos lasagnes, c'est fini.
Exactement.
Il n'est pas chaud.
Hélène Leuillet, dès l'enfance, les petits doivent se dépêcher d'être précoces, de ne pas être en retard. On craint le retard intellectuel de sa progéniture. Et donner naissance à un enfant précoce, voilà le graal parental contemporain.
Oui, non, ça c'est même assez inquiétant concernant l'éducation des enfants. Hein. Je crois que nous sommes nombreux à nous en inquiéter. C'est-à-dire que l'enfance n'est plus l'enfance et on se demande à quoi, à partir de quoi, après quoi on court. Alors, il y a évidemment le narcissisme parental. Mais il est très éloquent, ce narcissisme parental. En quoi est-ce qu'en avoir un enfant qui lit avant les autres, ou même on voit des choses absurdes, qui a ses dents avant les autres? On entend des choses comme ça. Hein. Et en quoi est-ce que ça devrait être valorisant? C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, justement, dans nos valeurs contemporaines concernant la précocité. C'est pour ça que, bon, je ne promeux pas le retard comme une solution dans l'absolu. Mais je dis qu'aujourd'hui, un peu de retard est salutaire parce que, justement, ça vient contrer toutes ces valeurs de la précocité qui nous font attendre quoi? Je veux dire, oui, évidemment, la ligne d'arrivée, elle est toujours la même.
Oui. Hein,
c'est comme s'il y a quelque chose de profondément mortifère dans cette course. force à la précocité. Et donc, parce que la vie, c'est prendre faire des détours, hein, c'est prendre un peu de temps quand même.
Oui, puis je pense que là, vous soulevez aussi la question du regard des autres, puisque on peut dire, alors j'ai un enfant qui est comme ci, comme ça, au regard des autres, mais en fait le sien, la temporalité de l'enfant, c'est ça qu'il va falloir respecter, quelle que soit l'évolution de l'enfant.
Absolument.
Marie-Laure Sunshine.
Oui, puis sur cette temporalité de l'enfant, il y a aussi le monde qu'on lui prépare, c'est-à-dire que pour qu'il ne soit pas en retard par rapport aux attentes des autres, par rapport à la difficulté de la vie, on parle du climat, on parle du chômage, on parle de l'emploi, du terrorisme, etc., on le prépare. Donc on lui fait sauter cette étape qui est pourtant fondamentale, fondatrice de son être plus tard, qui est cette période de l'enfance, où on joue, on s'amuse, on contemple, on rêve.
On s'ennuie. Il n'y a plus de berceuse, hein, c'est-à-dire que même ce que vous soulevez, c'est qu'on dit très vite la vérité aux enfants.
Oui, tu n'es plus un bébé.
Tu n'es plus un bébé, donc tu dois savoir que le climat se dégrade, qu'on t'a préparé à un avenir assez sombre, etc. Et alors finalement, on fait des enfants des adultes avant l'heure, hein, c'est-à-dire que tout ce temps de préparation, parce que l'ennui, c'est pas en soi, c'est pas une fin, parce qu'il y a aussi de la forme de haine du temps dans l'ennui, mais l'enfance est faite pour supporter, il faut pouvoir le supporter. Et quand est-ce qu'on peut apprendre à supporter l'ennui ? Dans l'enfance. Il y a toute une série de choses qu'on apprend dans l'enfance, précisément parce qu'il n'y a pas d'autres échéances que ce temps d'apprentissage qui est un temps un peu libre. Parce que finalement, aujourd'hui, on finit par se demander quand la vie doit-elle avoir lieu ? Quoi, ça devient entre 30 et 40 ans. Hein. Parce que avant 30 ans, on n'a pas assez d'expérience pour s'intégrer au monde, il faut faire des études de plus en plus longues, etc. Et après 40 ans, c'est fini. Hein. Vous êtes vieux, à 60 ans, senior. Alors on parle d'allonger le temps de travail, mais avec quoi des vieillards quasiment, puisque après 40 ans, ça commence à être le début de la fin. Et je vois à quel point cet impératif de précocité fait peser chez les jeunes, hein, ma collègue a peut-être aussi des patients dans ce cas, fait peser chez les jeunes une pression considérable. Si à 25 ans, je n'ai pas réalisé mon œuvre maîtresse, c'est fini, je ne pourrai plus.
Oui, et puis alors, il y a aussi une autre notion, je trouve que les enfants n'ont pas la notion du temps, on le sait, mais alors, si on se rappelle de notre enfance, on se souvient de choses très interminables, qui pouvaient nous déranger d'ailleurs, mais qui étaient interminables, mais ça avait du bon. Aujourd'hui, il n'y a plus rien d'interminable. Hein. Ça va beaucoup trop vite, en fait.
Je rappelle la définition du Robert, du retard. Le retard, c'est le fait d'arriver trop tard, après le moment fixé, attendu. Temps écoulé entre le moment où quelqu'un ou quelque chose arrive et le moment attendu. C'est également le fait d'agir trop tard, de n'avoir pas encore fait ce que l'on aurait dû faire. Et vous, quelle est votre définition du retard, Hélène Leuillet ?
Alors voilà, c'est la petite marge temporelle, vous voyez, de ce entre le trop tard, qui effectivement peut être évité, et le tard. C'est-à-dire que tard, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne sait plus, hein, qu'on ne sait plus manier. C'est cette petite marge qui fait que arriver trop tôt, parfois, ça ne va pas non plus. Que arriver trop tôt à une invitation à dîner, bah, vous risquez après tout de déranger vos hôtes. Hein. Il y a cette idée que bon, bah, il faut un quart d'heure, que on n'est pas à la minute près que le temps d'un cours dans l'enseignement ou d'une séance de psychanalyse ou de psychothérapie. C'est pas non plus à la seconde près qu'il y a des intensités parfois qui compensent la durée. C'est-à-dire qu'on calcule le temps, hein, de manière tellement stricte aujourd'hui qu'on a oublié ces évidences-là.
Dans votre livre, vous militez pour un droit au retard. Le retard pourrait bien nous sauver, écrivez-nous. Mais nous sauver de quoi ?
Bah, nous sauver justement de cette précocité, de cette pression. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut encourager les retardataires systématiques, c'est-à-dire ceux qui jouissent de faire attendre les autres, soit pour tester leur pouvoir, soit pour obséder la pensée de l'autre. Hein, ça, c'est pas du tout le retard systématique que je prône, parce que d'ailleurs, si le retard est systématique, il n'est plus du retard. Hein, il est imposé sa propre temporalité à l'autre, ce qui est très différent. Le retard, c'est cette petite marge qui nous permet de respirer un petit peu. Et d'ailleurs, il faut que ce soit une surprise, hein, pour celui qui est en retard, le vrai retard. C'est, ah ben je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai tout calculé, là, j'étais parfaitement à l'heure, et puis il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, et je suis en retard. Et là, il y a un mélange d'ennui et de respiration qui est salutaire.
Tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas, c'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Tu vois, soupire pas comme ça, comme si t'avais affaire à un enfant ou un malade.
La maîtrise du temps reste l'apanage des puissants, nous rappelle Jean-Pierre Bacri dans Cuisine et Dépendance. Et puissant, celui qui peut se permettre de faire attendre. Charles Fourier écrivait « Le patron n'est autre que le personnage qui est en retard quand vous êtes en avance et qui arrive en avant quand vous êtes en retard. »
Oui, ça c'est vraiment le mauvais usage. C'est le mauvais usage du retard. Hein. Effectivement, le retard de pouvoir. Hein. C'est pas du tout par rapport à ces retards hein, qu'il faut se régler. Hein. C'est pas du tout ça que je veux défendre, hein, je le précise, parce que effectivement, ça, c'est un moyen de tester son pouvoir. Mais ça nous indique aussi que tout rapport de temps est aussi possiblement un rapport de force, et que le rapport de force passe par le temps. Donc il faut connaître bien les enjeux du retard, pas pour entrer dans le rapport de force, comme vous l'indiquez, mais pour retrouver un petit peu de liberté par rapport à ce rapport de force.
Et le retard des autres est souvent pris pour un manque de respect ?
Oui, alors il est évident que ça se... là aussi, il faut faire des nuances. C'est-à-dire que si quelqu'un a systématiquement une heure de retard sur tous ses rendez-vous, il y a là un manque de respect. Même quand c'est impuissant, c'est-à-dire que les puissants corrects font en sorte que le retard ne déborde pas trop. Hein. Mais oui, il peut y avoir un manque de respect, mais pas toujours. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'entendre, comme ça s'est toujours fait quand on avait la chance de ne pas avoir des horloges toujours à l'heure, de savoir qu'il y a une petite
notamment.
Marge. Voilà. La radio, c'est particulier. Mais aujourd'hui, c'est pour tout. Hein. C'est dire, on a rendez-vous à 20h53 et ce ne sera pas 20h54, comme si on prenait un train toute la journée. Quoi.
Vous, Éric Livio, vous n'êtes jamais en retard.
Mais non, je sais pas. Et pourtant, parfois j'essaye et je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Après, comme je racontais tout à l'heure, j'essaye de me dire, tiens, je vais arriver à 20h12. Et effectivement, j'arrive à 20h12. Donc c'est presque un jeu maintenant de maîtrise du temps. Mais après, je conçois qu'on puisse être en retard. Donc ça ne me dérange pas, comme vous disiez. Même si c'est 5-10 minutes, ça va. Mais bon, moi, ça m'amuse d'essayer d'être à l'heure.
Docteur Aurélia Schneider, est-ce qu'Éric Livio doit consulter?
Non, c'est partie des gens à l'heure heureux, parce qu'en fait, il y a une vraie jubilation aussi d'être à l'heure. Moi, je trouve d'arriver à 29 alors que le rendez-vous est à 30, je trouve que c'est fabuleux. Ça donne une impression d'avoir finalement bien organisé les choses, sauf si c'est dans la souffrance. Mais il y a des gens qui sont tout à fait à l'heure et ça n'est pas dans la souffrance, c'est dans une bonne organisation.
Alexia Rivière, Claire Destacan, Julia Macarès et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et on écoute un titre de 1973. Cette année-là naissaient les créateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, et disparaissait Tolkien.
Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie. La voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hé, 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 oh, ça y est. danser sur moi, danser sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un chant de cygne s'est éteint, mais un autre a cassé l'œuf. Sous un saphir, en vrai saphir, miroir de mon sillon neuf. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.
Claude Nougaro interprété Dansez sur moi.
Il faut toujours arriver en retard aux réunions. Un créatif à l'heure n'est pas crédible.
Grand bien vous fasse.
Dites-donc, Tomasi, toujours en retard?
Tu m'as raté ta sonde, c'est...
Sur France Inter.
Et cet après-midi, nous célébrons les vertus du retard en compagnie de la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet et avec la psychiatre Aurélia Schneider.
Je suis structurellement en retard.
Plutôt ponctuel.
Je peux pas m'empêcher en fait d'être distraite par un maximum de choses autour de moi.
J'étais très en retard et je suis de plus en plus ponctuel car j'ai travaillé sur moi-même.
J'essaye de mettre plusieurs réveils.
Moi, je suis pas du matin du tout. Même le soir, je suis en retard. Je sais pas pourquoi.
Moi, j'étais toujours en retard parce que c'était un peu un défi à la vie de lutter contre le temps.
Tout le destin entier s'est mis pour que j'arrive en retard.
À mon avis, c'est une grande qualité d'être en retard.
Arriver juste à l'heure pour prendre l'avion qu'on a failli rater, c'est très excitant.
Je ressens pas trop de pression à être comment ça s'appelle ? Ponctuel.
Tous les jours, on est attaché aux horaires dans le cadre professionnel. Donc après, tout ce qui n'est pas engagement, surtout dans le travail, je suis complètement cool.
Peut-être même à mon enterrement, je vais être en retard.
Quand on arrive juste à l'heure alors qu'on est parti en retard, on a gagné une victoire contre la vie.
Propos recueillis par Julien Macarez et Clément Martin dans les rues de Paris. Réaction autour de la table, Hélène Leuillet, vous qui avez publié un très bel éloge du retard.
Alors bon, ce qui est extraordinaire, je trouve, quand on soulève cette question, c'est la diversité des rapports au temps. Et ça, c'est très important parce que effectivement, chacun d'entre nous a un rapport subjectif au temps. Et c'est ça qu'il faut arriver à retrouver. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont bien à l'heure, qui supportent pas, d'autres qui sont à l'heure pour leur travail et pas pour leur loisir, d'autres qui sentent bien quel est l'enjeu, mais vraiment vital de ce rapport au temps, qu'ils disent qu'ils vont être en retard sur leur enterrement. Et cette diversité des rapports au temps, c'est ça qui fait la richesse, je crois, de ces questions. Est-ce qu'on aime être trop tôt, à l'heure, en retard ? C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est notre rapport fondamental à la vie. C'est le sentiment qu'on a de vivre, il est engagé par cette question. Et voilà, on n'est pas obligé d'être en retard, hein, c'est pas du tout ça. Mais penser son propre rapport à la vie, son propre rapport au temps, ça je crois que c'est très important.
Aurélia Schneider.
Oui, alors je pense surtout que ce qui est important, c'est de pouvoir le vivre et le faire comme on a envie. Il y a un monsieur qui a dit, moi j'étais tout le temps en retard, maintenant je suis de moins en moins parce que j'ai travaillé sur moi. Et notre rôle de thérapeute, c'est d'aider la personne qui vient nous voir à calculer son rapport au temps comme il le souhaite. Celui qui est toujours en retard, s'il veut être plus à l'heure, on doit l'aider là-dessus. Et celui qui est trop à l'heure et qui est trop stressé, pouvoir lui donner ce jeu du retard qu'il n'ose pas s'octroyer. Absolument. Et ça, c'est notre rôle de thérapeute.
Tout à fait.
Alors, Hélène Leuillet, nous ne savons plus attendre. Nous sommes de plus en plus impatients. Nous ne supportons plus le retard dans tous les domaines de notre vie.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le retard, il nous confronte à un petit moment de vide. Hein, d'ailleurs, parfois, si on est en retard sur quelque chose, après, on se retrouve à être en avance sur la chose suivante. Et donc, on est obligé de se confronter au vide. Vous voyez, avec le retard, on fonctionne à perte. Et ça nous rappelle que, au fond, fondamentalement, nous sommes aussi des êtres traversés par la perte. Hein. C'est que le temps, on le perd. Hein. De toute manière, on le perd. C'est ça, une vie humaine. C'est du temps. Et on est accroché à ces questions-là, qui sont aussi des questions, on parlait de l'enfance tout à l'heure, qui se forgent dans l'enfance. Et il faut que l'enfant ait le temps de réaliser cela. Et donc, ce moment de vide, ce moment d'attente, moi, je dis même que quand quelqu'un est en retard, finalement, il nous donne la chance de dire, ben, tiens, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pendant ce temps ? Ah ben, je regarde les oiseaux, par exemple. Il n'y a plus d'oiseaux, vous me direz. Bon, mais bon. Ou je sens le temps passer. Vous voyez, c'est précieux. C'est extrêmement précieux. Et ça, on ne l'a plus. Mais si on veut vraiment vivre sa vie, et pas seulement être un petit soldat qui fait ce qu'il a à faire, y compris des choses, effectivement, qui pourraient être reportées, comme mettre la table du dîner le matin avant de partir, etc. Si on veut vraiment vivre sa vie, il faut qu'on ait un peu, et moi je dirais chaque jour, le sentiment que le temps passe. hein, c'est-à-dire un moment vide pour avoir ce sentiment que le temps passe. Je crois que les gens qui sont bien à l'heure, c'est peut-être les gens qui ont ça spontanément. Mais je veux dire, la vie est tellement faite aujourd'hui que c'est très rare de pouvoir se donner ces moments-là.
Docteur Aurélien Schneider, quels sont les liens entre la charge mentale et la peur d'être en retard ?
Alors, en fait, plus on a une charge mentale élevée, c'est-à-dire plus on est obligé de penser à plein de choses en même temps et à gérer plein de dossiers en même temps, plus on a de problèmes dans le rapport au temps, forcément, puisque on n'a pas assez de temps pour tout faire. Donc il faut trouver des stratégies. Et c'est assez stressant de se dire qu'on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on doit faire. En psychologie, psychiatrie, on appelle le sentiment d'urgence du temps, l'espèce de sentiment qu'on a que tout va trop vite, mille fois trop vite, et qu'on n'aura jamais le temps de faire tout ce qui est inscrit sur sa liste de choses à faire de la journée. Et en fait, ça, c'est un rapport important avec ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire quand même le sentiment d'être écrasé par tout ce qu'on a à faire.
Question de Marie-Laure Zonshein, de Femme Actuelle.
Oui, et pour gagner du temps, on réagit souvent par pulsion. Alors du coup, pas le temps de réfléchir, pas le temps de se poser. Pour rencontrer quelqu'un, vite, vite, on prend une appli, on swipe, comme ça, on passe les photos l'une après l'autre. Non, on se rencontre pas aussi par hasard, on prend pas le temps de se connaître. Donc on passe à côté de plein de choses, de l'amitié, de l'amour, des relations sociales, du désir. Vous parliez tout à l'heure de regarder, de contempler simplement, c'est de profiter ça. De la beauté du monde. Tout ça, on le loupe parce qu'on réagit par pulsion, parce qu'aussi on nous demande de le faire. On tweet, on réagit tout de suite, on ne prend pas le temps de la réflexion.
Ah oui, oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'agenda, hein, le grand thème de l'agenda aujourd'hui, il n'est plus seulement fait des grandes contraintes sociales. Hein. Moi, je ne veux pas du tout dire qu'on n'est pas soumis à ces grandes contraintes sociales. Enfin, on vit les uns avec les autres, donc il faut bien des horaires, il faut bien faire des choses pour la chaîne sociale, etc. Mais cet agenda, il se charge de toutes sortes d'impératifs pulsionnels. Hein. Hein, comme vous dites, il faut aller vite, et puis il y a des tas de choses supplémentaires qui se greffent, et là on entre dans un cercle, c'est-à-dire plus on a de choses à faire, et plus il faut agir de manière impulsive, pulsionnelle, avoir ce qu'on veut au moment où on le veut, c'est-à-dire réduire le temps d'attente. Hein, vous savez, il y a quand même une grande enseigne aujourd'hui qui se vante de réduire au maximum le temps d'attente entre votre pulsion, ce que vous avez envie d'acheter, et le moment où vous allez avoir la satisfaction de l'obtenir. Et là, c'est dramatique parce que au bout d'un moment, alors moi je mets en relation ce que vous dites là et ce que disait Aurélia Schneider à l'instant, c'est-à-dire que ça augmente la charge mentale. On se rend pas compte, mais toute cette impulsivité qui est soi-disant au service de notre bonheur, eh bien en vérité, elle augmente notre charge mentale et elle fait notre malheur en fait. Et d'ailleurs, il y a un grand impératif hein, sur lequel il faudrait se mettre en retard, c'est cet impératif du bonheur. Voilà. Et qui nous rend très malheureux parce que, évidemment, il faut un agenda extrêmement chargé pour arriver à ce qu'on peut éprouver un peu de bonheur. C'est-à-dire que cet impératif du bonheur, il rend les gens très très malheureux à cause de cet moyen qui est l'impulsion pour y parvenir.
Bonjour Diane, bienvenue dans l'émission.
Bonjour, Adélobé.
Alors vous, on vous a collé l'étiquette de retardataire.
Oui, voilà. Au cercle familial et mes amis, oui, je suis la personne perpétuellement en retard, celle à qui on ment sur l'heure de rendez-vous pour être sûr que la personne soit à l'heure. Donc c'est assez maladif, mais c'est dans ma vie de tous les jours, mais pas dans mon travail. Dans mon travail, je suis quelqu'un de totalement ponctuel. Mmh. Mais c'est vrai que je me mets dans des situations de stress en me disant « vite, vite, je vais être en retard, on va encore dire que je suis en retard, j'ai le droit à des blagues ironiques très méchantes parfois ». Et c'est vraiment, je n'arrive pas à arriver à l'heure.
Et est-ce que c'est une source d'anxiété tout de même, ou alors vous arrivez à composer avec cette étiquette de retardataire qui se révèle vraie, a priori ?
Oui, je compose, je trouve toujours une excuse. Et c'est vrai que c'est dans les situations, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est dans les situations où je sais que je peux joindre avec mon smartphone dans l'instantanéité, je peux dire à la personne, voilà, je vais décaler mon heure d'arrivée. Mmh. Tandis que dans le travail, ben, je suis enseignante et je ne peux pas joindre les élèves pour leur dire « Madame Blasi aura du retard
». Diane, tiens, je vous propose d'écouter Delphine. Bonjour Delphine. Bienvenue. Ah, elle n'est pas encore là, Delphine. Delphine, vous êtes là, parfait. Alors vous ne supportez pas le retard, hein ?
Du tout. mais c'est pas par rapport à ce que vous mettiez en avant tout à l'heure, le rapport au temps. Moi, je mets plus en avant le rapport à l'humain. Mm-hmm. Après, j'ai une maman qui était institutrice comme auditrice juste avant, et qui était continuellement en retard, mais des gros retards. Mm-hmm. Et je supportais pas. Et donc, moi, ça,
tout enfant, ça me faisait angoisser en me disant mais qu'est-ce que vont penser les gens, mais c'est pas bien, enfin dans ma tête de petite fille. Et puis en grandissant, je me suis dit mais j'ai tout le temps entendu ma mère dire non ben c'est pas grave, ils ont l'habitude. Mm-hmm. Ben, non, moi le rapport à l'humain ne doit pas marcher comme ça. Mm.
Pour vous, ça relève
et
de l'égoïsme.
Le parfait inverse.
Ça relève de l'égoïsme pour vous.
Ouais. Alors après, c'est un jugement sévère. Diane, que je m'impliquerais à moi-même si j'étais en retard, quoi.
Diane, vous vous sentez égoïste?
Parfois, je m'en veux. Hein. Je peux culpabiliser. Alors, ça va dépendre des personnes. Je sais que, par exemple, j'ai une maman qui a l'habitude, qui a pris l'habitude, effectivement, voilà. Mais j'ai du côté de la famille de mon père, ça peut être très compliqué. Oui, franchement, quand j'arrive, je suis mal, en fait. Et ce serait plus intelligent d'arriver à l'heure et de me sentir mieux parce que... Bah, ça me met dans des situations, oui, on se prend très mal à l'aise et on s'en veut énormément pour la personne.
Hélène Leuillet, Aurélia Schneider, sur ces deux témoignages.
Oui, alors c'est très intéressant, hein, je veux dire, alors, bon, Diane, évidemment, là, il faudrait en savoir un petit peu plus, hein, sur... Il y a évidemment chez vous, visiblement, une boulimie, une appétence de faire des choses, d'aller à la manifestation, en même temps de participer à notre émission, et donc ça, c'est formidable, et parfois, les journées, on a ce sentiment que les journées ne sont pas assez longues pour faire tout ce qu'on souhaite faire, et donc là, forcément, ça fait prendre un petit peu de retard, et ça oblige peut-être à hiérarchiser, à savoir un petit peu ce qui est important. C'est-à-dire que c'est vrai que faire des choix, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est perdre forcément quelque chose. On ne peut pas tout faire. Et ouais. Par rapport à ce que dit Delphine, c'est vrai que parfois, quand le retard est trop grand, trop systématique, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une instrumentalisation de l'autre. Je crois que Diane n'est pas dans ce cas. Hein. Il y a une multiplicité de retards. Hein. Mais il peut y avoir une instrumentalisation de l'autre dans le fait de faire toujours attendre. Ça, c'est vrai.
Docteur Schneider.
Oui, et puis à savoir à qui s'adresse le retard. C'est-à-dire, si le retard tard, c'est soit tout seul, on doit partir, je sais pas quoi, faire une randonnée tout seul, on rate le train, bah, c'est pas grave.
Exactement.
C'est soi-même et c'est une autre façon de voir la vie. On va créer d'autres opportunités. Si trop de personnes sont impliquées, s'il y a un horaire précis, si on a organisé d'aller au théâtre, eh bien, ça va être compliqué de faire attendre tous les autres.
Merci beaucoup d'être intervenu ce matin. Allez, il est temps de retrouver les choses presque vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Fort heureusement, il n'est ni psychiatre, ni psychothérapeute. Éric Libiot.
Alors, autant ne pas perdre de temps et dire les choses telles qu'elles sont, j'ai horreur du retard. Difficile d'en faire l'éloge, mais vous faites ça très bien, Hélène Leuillet, même si je suis un peu déçu que vous soyez arrivé à l'heure dans ce studio. Comme quoi, le temps est une notion très aléatoire et surtout très personnelle. Vous voulez un exemple, Ali? Eh bien, cette chronique ne commence jamais à la même heure. Tout ça pour que l'émission se termine toujours pile-poil-pile à l'heure. Franchement, ça valait pas le coup, mais je sens bien que vous prenez un malin plaisir à jouer avec le temps qui m'est imparti. Je vous rassure, moi ça me va très bien, mais je sens aussi qu'il faudrait quelque chose pour que chacun vive tranquillement, à son rythme, sans agacement, d'un côté et de l'autre. Chacun n'en fait qu'à sa tête et il est parfois difficile de faire montre de patience face au retard, comme il est possible d'être très remonté face à des gens tout le temps à l'heure. Chacun vit à son rythme et pour un peu, on se croirait dans un roman de science-fiction basé sur les espaces-temps parallèles. Je lance donc un appel aux artistes car il ne faut pas oublier que la littérature et le cinéma ont imaginé des appareils qui ont fini par exister. Les caméras de surveillance par exemple dans 1984 de George Orwell, le Skype dans Metropolis de Fritz Lang en 1927, la commande vocale dans 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick et le téléphone portable dans la série Star Trek. En attendant évidemment, la téléportation version éco-responsable, l'invention que tout le monde espère, mais pour l'instant, il faudrait imaginer un instrument qui pourrait mesurer le temps de chacun. Et tous les matins, par exemple, Marie-Pierre Planchon ferait sur France Inter, non pas le bulletin météo, mais le bulletin météo. Ce ne serait plus des infos sur le temps qu'il fait, mais sur le temps qu'il faut. Un bulletin disponible sur franceinter.fr qui donnerait le temps de chacun. Et chacun choisirait, en début de journée, le temps qu'il prendra pour aller d'un point de RER A à un point de RER B. Vous imaginez le gain de temps en temps de grève. Plus personne ne râle, car plus personne n'est en retard, plus personne n'est en avance. Chacun sait comment le temps de l'autre avance. Tout le monde est à l'heure aléatoire. L'heure aléatoire serait l'heure universel et tout le monde serait ponctuel et tout le monde serait en retard, mais une ponctualité mouvante et un retard glissant. Être à l'heure, c'est être à l'heure, car chacun irait à son rythme. Le monde irait beaucoup mieux, plus question d'âge pivot pour la retraite par exemple. La retraite se prendrait à 15h34, heure aléatoire. Le temps de travail aussi serait variable selon les semelles de chaussures et la vitesse des aiguilles. Les erreurs d'aiguillage seraient même bénéfiques parce que les rencontres se feraient sans qu'on s'en rende compte. Bon, alors je vois que je perds mon temps à imaginer tout ça. Et je me rends compte qu'il est temps de conclure cette chronique, sinon je serai vraiment en retard. Et j'ai horreur de ça, retour à la réalité. Mais si vous le permettez, Alice, je vais continuer à lire des livres et à aller au cinéma. Je n'ai rien trouvé de mieux que la fiction pour être à l'heure du monde.
La chronique d'Éric Libiot. D'ailleurs, Hélène Leuillet, vous l'écrivez, la culture, ça permet d'être en retard de façon très créative.
Ah oui, tout à fait, parce que bon, d'abord, lire prend du temps, et je crois qu'aujourd'hui, ben voilà, si on s'interroge aussi sur le fait que les jeunes, par exemple, lisent de moins en moins des livres longs, mais parce que la lecture prend du temps, et c'est quelque chose peut-être que nous ne savons plus faire. Et d'ailleurs, on peut se mettre en retard aussi parce qu'on lit. Hein, je veux dire, il y a un rapport de la lecture et du temps qui aujourd'hui est très malvenu dans l'époque d'impulsion, etc., que nous connaissons.
Vous écrivez que la culture est une école du retard. Je vous cite, la culture ne sert à rien sinon à apprendre le retard.
À apprendre le retard et à apprendre le temps. Et je dirais même, elle est issue de cela. Elle est issue du sentiment du temps. Elle est issue du sentiment du retard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, qui a un rapport entre le temps du roman, par exemple, les longs romans. Et bien, qu'est-ce qu'ils nous font sentir ? Ils nous font sentir le temps. C'est-à-dire que les grands romans du 19e siècle, c'est les romans d'une vie, par exemple, hein. La guerre et la paix de Tolstoï, c'est toute une vie. C'est-à-dire qu'on lit ce long roman, il s'installe dans le temps, et lui-même, c'est le temps de toute une vie humaine. Et ça, c'est quelque chose qui nous rassure, qui nous porte, qui nous aide à vivre notre vie. Et nous en avons besoin.
Just like before, hearts aren't broken.
Sings et Cautious Clay interprété Run Right Back.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et cet après-midi, nous célébrons les vertus du retard en compagnie de la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet et avec la psychiatre Aurélia Schneider. Docteur Aurélia Schneider, à partir de quel moment le retard devient-il pathologique et que peut cacher un retard pathologique? Je pense à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer, à dire non, qui multiplient les engagements et qui deviennent des retardataires pathologiques.
Oui, alors ça peut être ça, mais surtout ça peut être de ne pas arriver à dire non à soi-même, c'est-à-dire de ne pas résister à l'envie de faire des choses, de remplir son emploi du temps, comme on le disait tout à l'heure. Et moi, je pense que si on voulait un petit peu faire une sorte de typologie du retard, on pourrait dire, il y a le retard, le gentil petit retard, pas pathologique. Et puis, il y a ceux qui sont en retard, ça les dérange, ça dérange l'entourage, c'est un peu pathologique. C'est souvent sous-tendu par une envie de faire beaucoup de choses et une intolérance au vide et à la frustration de devoir attendre. Mais c'est pas sous-tendu par une pathologie. Et puis il y a le retard sous-tendu par une pathologie. Je pense notamment aux patients qui souffrent de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, qui là sont dans des retards monstrueux, qui peuvent d'ailleurs gréver beaucoup, beaucoup leur quotidien, rater des avions, etc. Et puis il y a le retard thérapeutique, c'est-à-dire quelquefois il faut apprendre à des gens qui sont complètement obnubilés par le temps, qui regardent leur montre 50 fois dans un transport alors qu'ils n'ont aucun moyen de gérer comment ce transport va fonctionner, qui se stressent, cela il faut leur apprendre à distiller un peu de retard dans leur vie.
Hélène Leuillet, je rappelle que vous publiez un bel éloge du retard.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette typologie. Et voilà, l'éloge du retard et le retard thérapeutique, il me semble circonstanciel. C'est-à-dire qu'il est vrai que le retard névrotique, le retard pathologique, il met en retard sur soi-même. Mais l'obsession du retard, elle met aussi en retard sur soi-même. Elle fait perdre aussi ce sentiment du temps qui est la vie. Et aujourd'hui, étant donné le tas des lieux qu'on dressait sur notre rapport au temps très très compulsif aujourd'hui, effectivement, on en vient presque à réhabiliter une forme de procrastination qu'on considérait traditionnellement comme toujours pathologique. C'est les gens qui tout le temps diffèrent à demain, reportent à plus tard, etc. Aujourd'hui, on est presque à dire, justement, c'est un retard thérapeutique. À tous ceux qui se livrent à des achats compulsifs sur Internet ou les sites de rencontres, etc., je dis, attendez, là, peut-être au moins différer à demain, ou au moins se forcer à ne pas répondre immédiatement à un SMS. Qu'est-ce qui nous oblige? Et souvent, on se rend compte que quand on diffère, ne serait-ce que de quelques minutes, on répond autrement, et souvent mieux, plus justement. On entend mieux ce que l'autre voulait dire quand on diffère. C'est-à-dire que la procrastination, elle devient aujourd'hui thérapeutique.
Hélène Leuillet, vous écrivez de très très belles pages sur le retard et la tristesse. Vous écrivez « Le temps n'est pas perdu dans la tristesse, mais il est comme chiffonné ». Et vous convoquez la regrettée philosophe Anne Dufour-Mantel et son éloge du risque « La tristesse fait table rase du temps ».
Oui, oui, Anne Dufour-Mantel s'est livrée à de très très belles pages sur la tristesse et elle parle aussi d'ailleurs un petit peu du retard. Je la cite en exergue. Oui, elle avait une profondeur. Enfin, merci de me donner l'occasion de lui rendre hommage parce qu'elle avait une profondeur de pensée, des bonheurs de langage enfin que l'on peut regretter. Une écoute de l'autre, une vraie bienveillance aussi, si bien qu'elle avait aussi une forme de bienveillance pour la tristesse, c'est-à-dire que aujourd'hui, non seulement on ne supporte plus le vide, mais ça va ensemble d'ailleurs, on supporte plus non plus les affects négatifs, comme la tristesse. Ça devient pathologique là, pour le coup, en inversion, c'est-à-dire que non, vous êtes triste, mais attendez, soyez sûr que ça va passer. Et puis voilà, je vais vous donner quelques remèdes. Moyennant quoi, on n'écoute plus la tristesse de l'autre, par exemple. On l'envoie balader, comme s'il y avait un grand risque dans la tristesse. Et je pense que oui, il y a un risque dans la tristesse, c'est de sentir le temps. Quand on est triste, on sent le temps.
Prendre le risque de la tristesse et prendre le risque de s'attarder. Mais s'attarder sur quoi?
En fait, dans la tristesse, je pense qu'on s'attarde un peu sur soi. Alors, c'est vrai que c'est là qu'il y a des bonnes pensées qui vont dire « Ah, mais vous êtes un peu complaisant. Allez, bougez-vous un petit peu. » Non, on s'attarde un peu sur soi. On dit mais qu'est-ce qui m'arrive? On est obligé de se poser la question. Alors, il y a aussi une sorte de typologie de la tristesse, des formes de tristesse différentes. Il ne s'agit pas d'encourager toute tristesse, là encore. Il y a toujours différentes sortes. Mais quand même, ce qui est commun, c'est que dans la tristesse, on s'attarde un peu sur soi. On se pose des questions sur soi. On se pose, comme on dit. Et on diffère, spontanément. C'est-à-dire, oui, aller faire du shopping, ça me remonterait le moral, mais j'ai pas envie parce que je suis triste. Et ben là, voilà, on respire un petit peu, on diffère l'impulsion, on sent à nouveau le temps, et je dis, c'est même une préparation à la joie, à une autre joie que celle de se remonter le moral en faisant du shopping.
C'est donc un retard de joie, la tristesse?
Ça peut être un retard de joie, ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être aussi qu'on s'est trahi soi-même, ça c'est pas forcément la bonne tristesse, mais s'y attarder, bah, ça permet de s'en rendre compte, et du coup, bah, de faire attention à pas trop se trahir trop souvent, parce que ça, on le paye. Hein. On le paye en tristesse, toujours. Mais ça peut être aussi, donc, de se reprendre un petit peu de temps, de se dire, j'ai perdu un petit peu trop de temps. C'est aussi rencontrer, moi, je dirais, cette chose fondamentale de la condition humaine qu'on évoquait tout à l'heure. Ça se passe si mal. Hein.
Vous, Hélène Leuillet, tout au long de votre vie professionnelle et personnelle, vous avez pris le temps.
Oui, j'ai un peu pris du temps, c'est vrai.
J'ai pris le temps de faire un enfant pour votre thèse. Enfin,
oui.
Voilà.
Oui, c'est ça. J'ai dit ça l'autre jour à quelqu'un qui m'interrogeait, mais c'est vrai. C'était le premier interview d'ailleurs que j'ai donné sur ce livre. Je me suis un peu livrée. Et c'est vrai que j'étais pas très en retard dans les études, ça non. Mais j'ai quand même été. Si finalement, au bout d'un moment, j'étais en retard, j'ai perdu du temps. Enfin, j'ai voulu perdre du temps après.
Vous le regrettez pas ?
Je regrette pas. Non. C'est vrai que j'ai eu un enfant à l'âge où certains pourraient être grand-mère. Jadis, hein. Jadis, on avait à 40 ans, on était grand-mère pour une femme. Moi, j'ai eu un enfant à 40 ans. J'ai fait une thèse très tard aussi. C'est bien que je suis un peu en retard dans la carrière. Je suis très en retard. Je rattraperai pas ce retard d'ailleurs. Mais c'est pas grave parce que j'ai fait les choses au temps où je pouvais les faire. Et donc sans prendre trop de pression. Alors je me suis interrogée beaucoup sur ce rapport au temps, mais ça a donné, oui, cette forme d'éloge du retard.
Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Oh, et une montre.
Oh, fermez, moustache. Je suis en retard, en retard, en retard.
C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire ?
Hé, monsieur !
En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de te rendre, je suis en retard, en retard.
Il faut que ce soit très important, une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi !
Non, quelqu'un m'attend ! Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard.
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Journaliste à Télérama et chroniqueuse dans Grand Main Vous Fasse tous les vendredis. Le retard, c'est un fidèle compagnon dans votre vie, et vous auriez pu être copain avec le fameux lapin d'Alice au Pays des Merveilles.
Oui, absolument. Sauf que lui, il a l'air d'être affolé d'être en retard. Moi, pas du tout.
Oui, pas du tout.
Non, quand même. J'exagère.
Non, vous êtes une retardataire. Mais Guillemette Audicino, vous êtes une retardataire tranquille. Quel est, au fond, votre rapport au temps? Parce que je vous ai jamais vu vous inquiéter d'être en retard. Et vous ne manquez pas de respect aux gens. Mais je sais pas, vous avez un rapport très particulier au temps, Guillemette.
Bah, effectivement, j'ai beaucoup de mal. Enfin, en plus, ça me blesse quand on me dit que le retard, c'est manquer de respect aux gens, parce que je n'ai absolument pas l'impression de manquer de respect. Mais j'ai cette confiance absolue, en fait, dans l'autre, je sais pas. Je me dis qu'il m'attendra. comme moi, je peux attendre très longtemps des gens en retard, ça ne me gêne absolument pas. Oui. Parce que j'ai tellement envie de les voir que la notion du temps n'a aucune importance là-dedans, en fait.
Et j'ai l'impression, Guillemette, que vous aimez vous lever dans le retard comme un chat qui s'enroule dans un plaid, que vous aimez étirer le temps, que je sais pas, il y a... Non.
J'avais pas vu ça comme ça, Guillemette, mais effectivement.
J'ai écouté toute l'émission et j'ai écouté ce qui était par exemple la question de la culture. Mais alors si le retard est disons l'amant de la culture, mais alors c'est extraordinaire. C'est magnifique. Enfin, tout ce que j'ai entendu dans la voix d'Hélène Leuillet, moi ça me ravit absolument. Finalement le retard est quasiment une manière de, je sais pas, peut-être de se préserver, bizarrement.
Hélène Leuillet.
De se préserver aussi son, son rapport aux autres, de tester son rapport aux autres aussi, peut-être.
Hélène Leuillet, j'ai l'impression que certains retardataires, un peu comme Guillemette Audicino, font un pied de nez à l'accélération de nos sociétés, accélération si bien décrite par le sociologue Arthur Trossa. Ce sont des rebelles, ces retardataires-là.
Il y a une forme de résistance. Hein, c'est ce que j'en... Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est une forme de résistance. Et d'ailleurs, je dirais que Lewis-Carroll était quand même en avance sur son temps, hein, quand il peint cette course effrénée. Enfin, vraiment, je crois que Arthur Trossa et Lewis-Carroll sont tout à fait d'accord, hein, l'un avec l'autre. Cette accélération folle, cette angoisse du retard. Et il est vrai, je partage tout à fait, hein, votre idée que, Guillemette, il y a une forme de confiance en l'autre dans le retard, et que la hantise du retard était peut-être à mettre en relation avec cette méfiance et cette suspicion généralisée que nous avons sur l'autre. Hein, c'est vrai que même on évoquait tout à l'heure les sites de rencontres. Il y a quelque chose dans l'attente d'une rencontre, hein, qui est aussi cette forme de tristesse qui prépare à la joie et qu'on ne sait plus non plus se permettre. Hein, c'est vrai que quand on attend quelqu'un, alors ça peut être un rendez-vous, quelqu'un qui est en retard, ça peut être aussi parce que on est à ce moment de sa vie où on attend quelqu'un. Eh bien, ça rend la rencontre d'autant plus précieuse qu'elle a été attendue aussi. Et voilà en quoi ça préserve soi-même, mais aussi la confiance en l'autre. Vous avez tout à fait raison.
Tiche nous dit sur notre page Facebook que je suis en retard depuis que je suis dans le ventre de ma mère. J'étais annoncé un 31 août et je ne suis sorti qu'un 21 septembre. Depuis, c'est pathologique chez moi, je suis trop souvent en retard. Bonjour Mel, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous ne supportez pas le retard, hein?
Ah non, moi j'ai beaucoup de mal. Alors si c'est les miens, je n'en parle même pas. Mm-hmm. J'ai toute une stratégie mise en place d'anticipation. Il me faudra tant de temps pour faire ça avant de partir et pour partir à l'heure, pour être à l'heure, avec des marges évidemment. Et alors le retard chez les autres, ça a tendance à me mettre dans un état nerveux extrême aussi. S'il se prolonge, alors j'essaie de rester calme au début et de pas m'énerver en disant voilà, c'est pas grave, 5 minutes, 10 minutes de retard. Si ça se prolonge et voilà, là je m'énerve, enfin, et puis je finis par en vouloir à la personne d'être en retard. Et donc, quand j'ai voyagé en Inde, je me suis trouvée confrontée en fait à des retards de train considérables. Et là, il a fallu que je revoie un petit peu mon attitude vis-à-vis du retard. Et donc, j'ai trouvé un espèce de calme, puisque finalement tout le monde attendait, tout le monde attendait sur les quais, et sans s'énerver. Donc, j'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé autour de moi. J'ai bouquiné, j'ai attendu calmement. Et donc, disons que ça reste pour moi une référence. J'essaye de retrouver cet état lorsque je me retrouve à attendre très longtemps quelqu'un qui n'est pas à l'heure, qui ne m'envoie pas de message, puisque maintenant on a le portable. Voilà, donc...
Merci beaucoup, Mel, pour votre témoignage, et merci également, Guillemette Audicino. J'aimerais qu'on termine avec un paradoxe, Hélène Leuillet. Vous écrivez que pour agir, il faut être capable de prendre du retard.
Ah oui, tout à fait.
Retard et action semblent pourtant incompatibles.
Ah oui, non mais c'est aujourd'hui comme on confond l'action et l'impulsion, hein, comme on disait tout à l'heure. Effectivement, on oublie que l'action, c'est comme la joie, quoi. Il faut la préparer aussi par un certain rapport au temps. Parce que là, effectivement, dans tous les témoignages, on voit bien qu'entre être en avance et être en retard, c'est très difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être à l'heure et d'être à l'heure avec soi-même. Et pour agir, il vaut mieux être à l'heure avec soi-même. Sinon, on est pris dans cette tourbillon d'impulsivité ou de boulimie, de faire des choses qui vont peut-être nous satisfaire, mais au fond, on n'est jamais satisfait. Tandis que le retard, c'est-à-dire prendre la marge, savoir que le temps ne dépend pas complètement de nous. Ce qui est extraordinaire dans le temps, c'est qu'il n'est pas totalement à notre disposition. Vous voyez cette expérience magnifique là, du retard de train en Inde, de notre auditrice, le retard d'avion, on a tous eu là, on est perplexe, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis, le temps se met à passer autrement. Et ça, c'est vrai que vous avez raison, arriver à retrouver ce temps autre, c'est la condition de l'action. Hein.
Merci beaucoup Aurélia Schneider et merci Hélène Leuillet. Je recommande votre livre « Éloge du retard » publié chez Albin Michel. Demain, je vous propose d'explorer notre part d'animalité.